Bonjour tout le monde. Ce matin, on va aborder un thème sur la doctrine de l'Église. Et cette semaine, on va parler de la mission de l'Église. Puis avant de débuter, je vais demander à mon collègue, OK, alors si on parle de la mission de l'Église, quand on parle de la mission de l'Église, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Quand on demande c'est quoi la mission de l'Église? Quel passage biblique est-ce qui vous vient en tête? Matthieu 28. Alors, on va débuter avec ça ce matin. On va lire Matthieu 28, les versets 16 à 20. Ouvrez vos Bibles. Matthieu 28, les versets 16 à 20. Alors, c'est pas mal ça, la grande commission. On appelle ça la grande commission que Jésus a donnée aux apôtres, juste avant de remonter au ciel. On pourrait dire que c'est ça la mission de l'Église. Le problème, c'est que là où on s'enfarge un peu dans les fleurs du tapis quand on parle de la mission, on parle souvent plus des moyens d'accomplir la mission que de la mission. Et la plupart du temps, ou le piège dans lequel on tombe souvent, c'est que le moyen d'accomplir la mission devient la mission. Je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vécu cet été. Il y a des gens qui marchaient dans la rue chez nous, d'une autre dénomination, qui font beaucoup de porte-à-porte. Alors, vous savez de qui il s'agit, qui sont venus. J'étais en train de réparer ma tente roulotte. Et ils sont venus, ils m'ont approché. Ils m'ont dit, est-ce que vous auriez 5 minutes pour jaser? Alors, je dis, ben oui, j'ai 5 minutes pour jaser. Alors, j'ai demandé, on va jaser de quoi? Ben, on va jaser de la pandémie, on va jaser de l'économie, on va jaser... Ils m'ont nommé plein de choses. Et là, j'aurais demandé, OK, mais est-ce qu'on va parler de l'Évangile? Et là, ils étaient surpris. Mais ça m'a un peu frappé parce que, dans le fond, le moyen était devenu la mission. Leur mission, c'était de parler aux gens de leur quotidien, mais l'Évangile n'allait clairement pas être présenté dans ce qu'ils faisaient. C'était spécial. Alors, ça les a déstabilisés. Est-ce qu'ils auraient fini par parler d'Évangile? Peut-être, mais ils sont partis. Mais on tombe dans ce piège-là, nous aussi. C'est très commun, que ce soit quand on va faire de la justice sociale, on veut faire du bien aux gens autour de nous, mais faire du bien devient le but. Mais ce n'est pas le but. On fait du bien pour approcher les gens avec l'Évangile. Donc, souvent, quand on parle de la mission de l'Église, ça devient un débat sur quels moyens on va prendre pour accomplir la mission. Et finalement, on débat sur ce qu'on croit être la mission, parce que notre but, on y tient. Le moyen qu'on va prendre pour y arriver, on y tient. Donc, par exemple, une approche simplement évangéliste, ça ne suffit pas. Parce que si on va juste faire de l'évangélisation partout dans les rues, et les gens viennent à Dieu, mais qu'on ne les ramène pas dans une église après... Il y a un problème, parce que Dieu veut sauver des âmes, mais il veut aussi sauver des âmes pour les amener dans son peuple et les intégrer à l'Église. Donc, simplement, une approche évangéliste pure, ça ne fonctionne pas. C'est pas juste d'annoncer l'Évangile, c'est de faire des disciples la mission. Et on va parler de beaucoup de moyens ce matin. Et ce que je veux qu'on garde à l'esprit, c'est qu'il n'y a aucun de ces moyens-là qui est exclusif. Aucun des points qu'on va aborder est exclusif. Toutes ces choses-là font un tout. Et si on va trop loin dans un ou dans l'autre, on tombe dans ce piège-là et il y a une balance qui va se perdre dans ce qu'il faut faire. Il faut faire de l'évangélisation pour amener des gens à Christ, mais il faut aussi faire des disciples formés. On appelle ça le perfectionnement des saints dans l'Église. Il faut enseigner la parole aux chrétiens. On peut même se demander, dans la mission, le culte du dimanche matin est adressé à qui? Est-ce que le culte du dimanche matin est adressé aux gens qui sont croyants ou aux gens qui ne sont pas croyants? C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. On ne les adressera pas toutes ce matin, on n'aura pas le temps, mais on va faire un tour, un petit survol de la mission qui nous est offerte et les moyens qu'on peut prendre pour l'accomplir. Donc, je vous propose quelques livres qu'on a ici à l'Église qui sont très, très bons. Il y a celui-ci, qui est un peu plus vieux, écrit par M. Buller, qui est « L'Église locale, un manuel pratique ». Et c'est très, très pratique. Ça fait le tour de plusieurs doctrines qu'on va voir dans le cadre du cours ici. Il y a celui-ci par Nine Marks, c'est Mark Dever, qui est un peu plus récent, « Une communauté irrésistible ». Je ne l'ai pas lu au complet, mais à date, je le trouve très bien. Et si vous voulez adresser le thème très actuel de la justice sociale et l'Église, celui-ci par Kevin DeYoung est très bon. Donc celui-là, je pense qu'il sera disponible à la bibliothèque de l'Église bientôt. Celui-là l'est, mais que je le retourne, il va l'être. Il y en a un autre que je voulais vous montrer, mais je l'ai en français, je l'ai prêté à quelqu'un, je ne sais plus qui. Je l'ai en anglais sur mon Kindle. Ceux qui le connaissent peut-être, son nom c'est Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, c'était un pasteur en Allemagne sous le régime nazi. Et donc, il a fini assassiné dans un camp de concentration. Et il a écrit un livre qui s'appelle, en anglais, c'est « Life Together ». En français, c'est « De la vie communautaire ». Donc, ça parle de la vie communautaire en Église, qui fait le tour un petit peu de comment les chrétiens devraient être dans l'Église. Excellent, excellent, excellent livre. Un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'Église. Vraiment, vraiment bon. Je l'ai lu l'année passée. Vraiment une approche très, très, très pratique et biblique sur la vie du chrétien dans l'Église. Donc ça, c'est quelques livres que je vous propose. Donc, le but de Dieu dans la mission. Okay, on va aller au sujet qui nous intéresse ce matin. On va définir cette mission-là. Et avant d'y aller, on a lu juste avant que Jésus monte au ciel. Et maintenant, on va aller lire un passage juste après que Jésus est monté au ciel, donc dans les débuts de l'Église, juste après la Pentecôte, en fait. Les débuts de l'Église à Jérusalem, comment est-ce que les chrétiens agissaient, comment est-ce qu'ils étaient ensemble? Donc, j'aimerais que quelqu'un me lise Acte 2, les versets 36 à 47. OK, alors là, on est à la fin du discours de Pierre à la Pentecôte. Alors, c'est un texte qui est lourd de signification. Il y a beaucoup de choses qui se passent, là. C'est le début, c'est les premiers jours, vraiment, de l'Église. On parle de beaucoup de personnes qui viennent à Christ en ce jour-là, et pourtant, il y a une organisation qui se met en place. Ce n'est pas le désordre. Il y a quelque chose qui est là, il y a un but commun, et il y a une structure qui se définit là, qui est établie, je pense, par Dieu. Même le Saint-Esprit guide les apôtres lors des débuts de l'Église. Donc, on va regarder un petit peu la mission de l'Église à la lumière de ce qu'on vient de lire, et on va regarder quelques points qui font partie de la mission de l'Église. Donc, c'est quoi le but de Dieu dans cette mission-là? Et c'est quoi cette mission-là? On va la décortiquer un petit peu. La mission de faire des disciples et d'annoncer l'Évangile et d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Donc, le premier point de la mission qu'on va regarder ce matin, ça s'appelle le perfectionnement des saints. C'est l'enseignement qu'on donne aux chrétiens. Le perfectionnement des saints, ça implique que ce sont aux enfants de Dieu qu'on enseigne. Et pour le perfectionnement des saints, Dieu donne des dons à l'Église. Et on peut lire dans Éphésiens 4, verset 12. On va lire beaucoup de versets ce matin, donc ayez vos Bibles prêtes. Si quelqu'un peut me lire Éphésiens 4, verset 12. Je vais vous en donner quelques-uns. Est-ce que quelqu'un peut prendre Éphésiens 4, 12? Quelqu'un d'autre? Jean 17, 3. Quand je vais dire Jean 17, 3, quelqu'un qui Mélissa, quelqu'un d'autre, Matthieu 7, 24. La personne qui va lire Éphésiens 4, 12, gardez la page parce qu'on va y revenir. 2 Timothée 3, 16 à 17. Quelqu'un, là, je nomme pas de nom, je vous laisse y aller. Donc, quelqu'un qui va me lire Éphésiens 4, 12 pour le perfectionnement des saints. Donc, on parle des dons aussi que Dieu donne pour le perfectionnement des saints. Dieu donne des dons à ses enfants, pas juste pour servir à l'extérieur, mais en particulier pour édifier l'Église. Okay? Et dans ce livre ici, qui est excellent, on n'ira pas là ce matin, mais il parle des comparaisons qui sont faites avec l'Église, donc un édifice, l'épouse de Christ, et les significations que ça a quand on considère la mission de l'Église. J'ai choisi de ne pas aller là parce qu'on n'est pas dans l'éternité encore. Pour le perfectionnement des saints, Dieu donne des dons, et les croyants sont appelés à parvenir à une pleine connaissance de Dieu. Quelqu'un peut nous lire Jean 17, 3. C'est de connaître Dieu et on est appelé à connaître Dieu un peu plus tous les jours. En fait, une des belles choses qu'on va vivre dans l'éternité, c'est qu'on va pouvoir connaître Dieu éternellement et parfaitement. Ça, c'est la consommation de la vie chrétienne. C'est être vraiment lié à Dieu pour l'éternité. On est appelé à travailler à connaître Dieu en tant que chrétien. Et on peut le prendre comme un but personnel, qui est important, mais aussi appelé à connaître Dieu pour pouvoir partager cette connaissance avec les autres croyants de l'Église. Les croyants sont appelés à pratiquer ce qu'ils apprennent. Dans Matthieu 7, 24, on connaît l'histoire, l'homme qui a bâti sa maison sur le roc, sur le sable, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique les paroles de Christ bâtissent sur un fondement solide. Et non seulement bâtissent sur un fondement solide, mais peuvent enseigner aux autres les mêmes paroles qu'ils ont apprises. Notre sainteté n'est pas une simple notion personnelle quand on est dans l'Église. Attention, si on ne pratique pas la sainteté, ça affecte les gens autour de nous dans l'Église. Et si on pratique la sainteté, ça affecte positivement aussi les chrétiens qui nous côtoient. On est appelé à tendre vers la stature de Christ, ressembler de plus en plus à Christ. On peut relire Éphésiens 4, les versets 11 à 13. On a lu le verset 12, mais on va compléter un peu plus ce passage-là. Et ça, c'est un but inatteignable ici sur Terre, là. Parvenir à la stature de Christ. Si quelqu'un vient en avant et vous dit « Moi, je suis parvenu parfaitement à la stature de Christ », on peut qualifier cette personne. C'est un menteur. Ce ne sera pas possible. Mais on est appelé à y tendre, à y travailler. Ce sera possible quand on sera dans l'éternité. On peut lire 2 Timothée 3, les versets 16 et 17 aussi. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour reprendre, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, on doit tendre vers la stature de Christ, pratiquer ce qu'on apprend, parvenir à une pleine connaissance de Dieu, viser et pratiquer, on l'a lu dans Éphésiens 4, les versets 11 à 13, mais viser et pratiquer l'unité de la foi. Okay? Viser et pratiquer l'unité de la foi. Ça, c'est le perfectionnement des saints, un bref survol, et ça vient s'imbriquer dans cette mission-là de former des disciples qui fait partie, qui est la mission de l'Église. Donc, l'Église, ça devrait être comme un dôme spirituel de formation, de communion et de service des membres. Ça veut dire que quand on écoute un cours, on est en train d'accomplir la mission de l'Église. Quand on donne un cours, on est en train d'accomplir la mission de l'Église. Quand on fait notre culte personnel, on est en train d'accomplir la mission de l'Église, ou du moins une partie de cette mission. Tant vers la stature de Christ, on essaie de ressembler à Christ, on pratique la sainteté, ça fait partie de la mission de l'Église. Quand on sert les membres, quand on sort les poubelles, ça fait partie de la mission de l'Église. Premier point, le perfectionnement des saints. Deuxième, la préservation de la vérité. Dans 1 Timothée 3, verset 15, on n'ira pas le lire parce que je me rends compte que si on va dans tous les versets, on n'y arrivera pas. Mais l'Église est appelée la colonne et l'appui de la vérité. Dieu veut que son Église soit la place où les gens peuvent entendre la vérité. On est en train de faire le livre des juges à la jeunesse. Et c'est surprenant que la Bible est un livre qui ne fait pas un beau portrait de ses héros. Okay? Le seul héros qui est bien présenté dans la Bible, parce qu'il n'y a rien de mauvais à dire à son sujet, c'est Jésus-Christ. Mais il fait un portrait très réel de l'homme. Okay? Et les juges sont un bon exemple de ça. Dieu désigne un juge et pourtant ces juges-là ont beaucoup de failles. Okay? La préservation de la vérité. La Bible est un livre vrai qui révèle le cœur de l'homme et qui présente le cœur de Dieu. La préservation de la vérité. Les membres doivent veiller sur l'enseignement qui est donné. Donc, ce matin, là, vous devez veiller sur ce que je dis et voir si ce qu'on leur dit est vrai. Comme les chrétiens de Bérée qui regardaient tous les jours et qui sondaient pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Ça, c'est dans Actes 17. La préservation de la vérité, c'est primordial dans la mission de l'Église. Si la mission, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ, mais on n'enseigne pas ce que Jésus-Christ a prescrit, il y aura un problème. Si la mission, c'est de faire des disciples, de présenter l'Évangile, et qu'on ne présente pas l'Évangile, ou qu'on présente un autre Évangile, comme Paul dit, si quelqu'un présente un autre Évangile que celui que je vous ai présenté, qu'il soit anathème. L'Église doit être la place où la vérité est enseignée et mise de l'avant. Celui-là est assez clair, donc on ne va pas s'étendre trop longtemps dessus, mais la préservation de la vérité, c'est vraiment, vraiment important que l'enseignement soit véridique et biblique. Un point sur lequel on va s'étendre un petit peu plus, parce que c'est un point qui est très actuel et qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le rayonnement de l'Église vers l'extérieur. L'Église est appelée à rayonner vers l'extérieur. C'est un fait. Il faut que l'Église rayonne. Il faut que l'Église se fasse connaître. Par contre, c'est un élément de la mission. Ce n'est pas la mission. La mission, ce n'est pas de rayonner. C'est un moyen d'accomplir la mission d'amener des gens à Christ et de faire des disciples. Les chrétiens sont la lumière du monde et le sel de la terre. On voit ça dans Matthieu 5. Et le rayonnement, on peut discuter beaucoup des moyens qu'on peut prendre pour rayonner. Moi, je vous propose Éphésiens 4, les versets 1 à 13. Est-ce que quelqu'un peut aller nous lire ça? On a lu déjà quelques versets dans ce passage-là. C'est un passage qui est riche en ce qui a trait à la vie de l'Église. Éphésiens 4, les versets 1 à 13. Très lourd là, comme signification ce qui est là, mais un principe sous-jacent ou qui lie tout le passage, qui est un peu résumé à la fin. C'est de Jésus-Christ que le corps tire son accroissement. Et on parle de se conduire d'une façon digne de la vocation, du service, des dons qu'ils nous ont donnés, du perfectionnement des saints. Et ensuite, on parle de l'accroissement et de l'édification du corps. L'accroissement et l'édification du corps, ça a deux volets. Il y a l'accroissement dans la sainteté et l'édification dans la sainteté, mais l'accroissement dans le nombre aussi. C'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre, qui est sujet de beaucoup de livres aujourd'hui. On appelle ça la mission de la justice sociale et on pense qu'il faut démontrer beaucoup d'amour aux gens de l'extérieur sans nécessairement leur présenter de l'Évangile. Là, on débarque un petit peu du bateau. Puis, en leur démontrant l'amour de Christ par des gestes à l'extérieur, on va les attirer dans l'Église. Et on peut s'interroger. C'est pas mauvais de faire du bien aux gens à l'extérieur. D'ailleurs, les chrétiens, on est appelés à faire du bien aux gens. On est appelés à le faire. Par contre, je ne pense pas que le rayonnement doit se faire à l'extérieur pour être amené vers l'intérieur. C'est là que quelque chose qui, selon ce que je sais, et je vous le dis très humblement, je crois est erroné. Je crois que ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que ce rayonnement-là doit commencer à l'intérieur et sortir vers l'extérieur. Par exemple, le devoir du chrétien de prendre soin des gens doit commencer par les gens à l'intérieur de l'Église. Et ça va rayonner à l'extérieur. Il y a un principe ici dans ce livre-là, très intéressant. Oui, c'est celui-là. Celui-là parle particulièrement de la justice sociale et il parle d'un devoir moral. Et que le devoir moral est d'abord pour les gens qui sont plus près de nous. Le devoir moral doit s'exercer premièrement aux gens qui sont plus près de nous. Et les gens qui sont les plus près de nous, ce sont les gens de notre église locale. Si on ne prend pas soin des gens de notre église locale, comment est-ce qu'on va prendre soin des gens de l'extérieur? Si on ne prend pas soin des gens de notre famille, comment est-ce qu'on va prendre soin des gens de l'extérieur? Si je ne prends pas soin de ma propre sainteté, comment est-ce que je peux prendre soin de la sainteté de mon frère ou ma sœur? Est-ce que vous comprenez? Ce rayonnement-là se fait d'abord à l'intérieur de l'Église et va déborder à l'extérieur. C'est ce qu'on voit dans le passage qu'on a lu dans Actes, en commençant. Ça ne dit pas que les chrétiens sortaient tous les jours pour distribuer de la nourriture aux Juifs dans le temple. Ce n'est pas ça qui est écrit. Ce qui est dit, c'est qu'ils persévéraient ensemble, les croyants, dans la fraction du pain, dans la prière, dans la lecture de la parole, et ils obtenaient l'approbation du peuple. Le rayonnement se faisait d'abord à l'intérieur et ça débordait à l'extérieur. Et les gens voyaient comment les chrétiens agissaient entre eux et louaient Dieu. Et beaucoup de gens venaient à Christ. Si on revient sur la Grande Commission, comment est-ce que le monde va voir qu'on est des disciples de Christ? On peut aller dans Jean 13, 34 à 35. Je n'irai pas vous le lire, mais vous le connaissez sûrement très bien. C'est le commandement que Jésus donne. Il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Là, il ne parle pas à tout le monde, là. Il parle aux apôtres. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » La preuve qu'il parle aux apôtres, c'est que comment quelqu'un peut aimer les gens comme Jésus l'a aimé s'il ne sait pas comment Jésus l'a aimé. C'est un appel qui nous est donné. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et le résultat de ça, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, ça peut paraître des fois contre nature. Mais voyons, il faut qu'on aille vers l'extérieur. Jésus, Dieu, a assez d'amour pour les gens à l'extérieur aussi. On est appelé à aimer les gens dans l'Église, les chrétiens d'abord, et ça va déborder. Inévitablement, Dieu a assez d'amour qui va déborder, mais on est appelé à exercer cet amour-là d'abord avec les croyants. Comment est-ce que l'Église va rayonner à l'extérieur? Comment est-ce que les gens du monde vont savoir qu'on est des disciples de Christ si on s'aime dans l'Église comme Christ nous a aimés. L'amour de Christ doit rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Malheureusement, dans notre société très individualiste, on va le dire, le rythme de vie très rapide, il y a des différences de point de vue, et ça mine notre rayonnement à l'extérieur. Et c'est pas seulement dans l'Église que ça se vit, mais ça, on vit dans une société individualiste et ça va se refléter dans l'Église. Donc, je nous encourage, je nous exhorte fortement à exercer l'amour envers les autres chrétiens de façon concrète. Si vous ne savez pas comment faire de façon concrète, lisez Jacques, ça va vous aider là-dessus. Lisez 1 Jean. 1 Jean, c'est un des tests pour le chrétien. Est-ce que j'aime mon frère? Donc, les relations entre chrétiens doivent être caractérisées par l'amour de Christ. Alors, de façon pratique, je vais vous donner une chose ce matin. Une chose qui est très difficile, qui caractérise l'amour de Christ et qui devrait caractériser nos relations entre chrétiens. Et juste ça, ça va faire une différence majeure avec les gens du monde. Deux choses qui devraient caractériser nos relations entre chrétiens. La première, c'est la repentance. Et la deuxième, c'est le pardon, qui vont de pair. Si on se repent les uns les autres et si on se pardonne les uns les autres, nos relations vont changer. Nos relations vont changer. Si on demande pardon et qu'on se repent quand on fait quelque chose de mal à un de nos frères ou une de nos sœurs, et que la sœur ou le frère nous pardonne de bon cœur, aïe aïe, tout un changement qui va s'opérer. Deux choses seulement que je vous donne ce matin, mais tout un mandat, OK? Et c'est seulement possible avec l'amour de Christ. Si on a connu Christ comme notre sauveur, il nous donne la puissance de se repentir, premièrement, puisque la repentance définit la relation du chrétien avec son sauveur. Et il nous donne la puissance de pardonner aussi aux autres. Et on voit les premiers pas de l'Église, c'est pas caractérisé par un grand mouvement de justice sociale. C'est pas caractérisé par un grand mouvement de prouesse musicale d'un groupe de louanges qui faisait un bon show puis qui attirait plein de monde le dimanche matin. C'est pas caractérisé par des grands événements bien ficelés. C'est pas mauvais ces choses-là, là, OK? Mais c'est pas ça, ce n'est pas le but. Et j'aime le mot, c'est avec, ils se réunissaient avec simplicité de cœur, avec un esprit de communion dans la prière et l'étude de la parole, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église primitive a rayonné par l'amour et l'unité des saints. C'est comme ça que ça a rayonné. Ils se réunissaient chaque jour. C'est important de revenir à ça. Et on a tendance, c'est très québécois, là, à complexifier beaucoup l'affaire, hein? Oui, mais il faut planifier. Non, ils se réunissaient chaque jour avec simplicité de cœur, là, avec un esprit de communion. C'était pas compliqué l'affaire. Inviter quelqu'un à souper chez nous, je veux dire chez vous, vous n'êtes pas obligé de m'inviter après, là. Mais inviter quelqu'un chez nous, c'est pas compliqué. On voit quelqu'un qui passe par un moment difficile, juste aller voir la personne, lui dire qu'on va prier pour elle. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est pas compliqué. Et on pourrait dire, oui, mais on le fait pareil. Oui, mais on peut lui dire. On peut démontrer de façon concrète à l'autre personne qu'on l'aime. Simplicité. J'aime beaucoup l'écrivain qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, qui était un chrétien, J.R.R. Tolkien, et il y a un des passages dans son livre. C'est merveilleux. Ça transpire un petit peu dans ce qu'il a écrit. Il y a un des personnages, c'est Gandalf le magicien, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui parle avec un autre personnage très puissant qui dit « J'ai pas vu que ce sont les grands actes de bravoure qui changent le monde ou qui gardent le mal à distance. C'est les petits gestes quotidiens. Ça parle, c'est profond. » Et je pense que, j'appelle ça comme ça, Dieu n'est pas le Dieu nécessairement toujours des grands actes d'héroïsme. En fait, quand Dieu est obligé de faire un grand acte, c'est parce qu'on a échoué dans le quotidien. Dans le quotidien, j'appelle ça la platitude, ou on peut dire en bon québécois, la poutine quotidienne. On doit exercer l'Évangile. On doit exercer l'amour de Christ dans le quotidien. Pas juste rechercher les grands actes héroïques ou qui seront vus de tous. Donc, le rayonnement à l'extérieur, c'est important, mais ça se fait pas au détriment de notre vie communautaire d'Église. Ça commence à l'intérieur. Un autre élément de la mission, celui-là assez évident, la proclamation de l'Évangile. Donc, la diffusion et la transmission de l'Évangile, c'est la mission de chaque chrétien. Okay? Ce n'est pas une mission collective seulement. Chaque chrétien, dans son entourage, est appelé à parler de l'Évangile. Donc, on a lu Matthieu 28. On peut lire Acte 8, verset 4. Acte 8, verset 4 qui dit ceci. « Ceux donc qui avaient été dispersés, donc il y a eu une dispersion de l'Église de Jérusalem, allaient de lieu en lieu, faisaient quoi? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. » OK? Et d'ailleurs, on peut... moi, je suis pas un expert en grec ou en hébreu, mais dans la Grande Commission qui dit « aller », OK? C'est pas... ce que j'ai compris, c'est que c'est pas aller, c'est en allant.
OK? En allant.
En faisant notre poutine quotidienne, partout où on est, partout où on va, faites de toutes les nations des disciples. Ça vaut pour les gens dans l'Église. Partout où on va, si j'ai quelqu'un de l'Église qui est là, on s'exhorte, on se parle, on fait des disciples, on s'édifie l'un l'autre. En allant, faites de toutes les nations des disciples. Mes collègues de travail qui ne sont pas croyants, est-ce qu'ils savent au moins que je suis croyant? La proclamation de l'Évangile, ça fait partie de la mission. Celle-là est assez évidente. Et il n'y a pas 36 moyens de proclamer l'Évangile. Il faut le proclamer, OK? Il faut parler. Il faut, à un moment donné, qu'on parle de l'Évangile. S'il y a un moyen qu'on prend pour essayer de rentrer en contact avec les gens et qu'on n'est jamais capable de présenter l'Évangile, ben arrêtons. Je vous donne un exemple, là. Si je veux faire pousser une vigne, OK? Je bâtis un beau treillis pour que ma vigne pousse dessus, OK? Puis il est beau, mon treillis. Puis je prends soin de mon treillis. Puis il est donc beau, mon treillis. Mais la vigne, elle pousse pas. Le treillis, il sert à rien. Les moyens qu'on prend pour annoncer l'Évangile, c'est le treillis. Mais la vigne, c'est l'Évangile. Le but, c'est pas d'avoir un beau treillis. En fait, le treillis, il n'a pas besoin d'être beau. On veut que la vigne le couvre, OK? Le moyen n'est pas aussi important que la mission de proclamer l'Évangile. Donc, la proclamation de l'Évangile, c'est un autre aspect de la mission. Ensuite, Dieu utilise l'Église pour accomplir ses desseins sur terre. Dieu utilise l'Église pour accomplir ses desseins sur terre. Donc, les décisions dans l'Église sont prises avec l'intervention du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a un conseil d'anciens. On n'a pas un boss qui décide tout. En fait, il y en a un boss qui décide tout. Les décisions sont prises avec l'intervention du Saint-Esprit. Je vais aller plus loin. Dieu utilise l'Église pour accomplir ses desseins dans ma vie. C'est-à-dire que l'Église est là aussi comme communauté de croyants. Il faut qu'on s'en serve quand on a des décisions à prendre dans notre vie. Quand on a un péché qui persiste, quand on a quelque chose qu'on devrait aller chercher de l'aide, mais l'Église est là pour ça. Allez-y. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas une chose mystique. C'est pas un art mystique. C'est pas arrivé souvent qu'il y a un éclair qui est descendu du ciel ou qu'il y a un âne qui a parlé. OK? C'est arrivé, mais pas souvent. Dieu se révèle la plupart du temps à travers les croyants qui nous entourent. Les décisions sont prises avec l'intervention du Saint-Esprit. Ça vaut pour les anciens, quand ils se réunissent pour nous donner quelle orientation on va prendre en tant qu'Église, mais ça vaut pour ma vie aussi. Je peux demander aux anciens conseil, mais je peux demander aux autres croyants qui m'entourent conseil aussi. Ça fait partie de la mission de l'Église. L'Église discerne les vocations, elle appelle et elle envoie pour servir. On voit ça, les décisions prises avec l'intervention du Saint-Esprit, on voit ça dans Acte 15, on voit ça dans Acte 13. On voit quand les apôtres se sont mis à part pour étudier la parole, ils ont désigné des jeunes hommes pour servir les veuves. Ils ont appelé. Ils ont pris Paul et Barnabas. Ça dit, l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Esprit a dit, c'est ce qui est écrit dans Acte. L'Église appelle et Dieu accomplit ses desseins au travers de l'Église. Alors, je vais être pas pire finalement. Pour conclure, OK? S'il y a des questions après, je vais essayer d'y répondre avec humilité, là, mais je vous appelle là, si vous voulez en discuter. C'est un sujet qui est très, très, très large, là. C'est important de comprendre, je le répète, que toutes ces choses-là ne sont pas séparées. Ça forme un tout bien coordonné. Ça forme un tout. Si on va d'un côté seulement, si on se concentre seulement sur les gens dans l'Église, puis qu'on dit qu'il faut prendre soin seulement des gens dans l'Église, on ne rayonnera pas à l'extérieur. Si on ne prend pas soin des gens dans l'Église, on ne rayonnera pas à l'extérieur. Ça forme un tout. Si on fait beaucoup de bien dans la communauté, mais on ne présente pas l'Évangile, on n'accomplit pas la mission non plus. Si on présente l'Évangile, mais on ne fait pas de disciples, on n'accomplit pas la mission non plus. Ça forme un tout. Tous les points sont aussi importants les uns que les autres. Et il y en a d'autres qu'on pourrait ajouter à cette liste-là. De la même façon que Paul et Barnabas ont été mis à part pour partir, les autres apôtres ont été mis à part pour l'étude de la prédication, d'autres ont été mis à part pour le service aux veuves, OK? Il n'y a pas de tâche ingrate dans la mission. C'est important de se rappeler ça. Un exemple que moi j'ai vécu, j'ai servi au camp des Bouleaux quelques temps, quelques étés quand j'étais plus jeune. Quelques-uns ici l'ont fait. C'est pas parce qu'on a lavé les toilettes tout l'été que c'est moins important. Il y a des gens qui sont venus à Christ au camp des Bouleaux, moi inclus, et les gens qui ont travaillé à faire la vaisselle, des choses, on ne les a même pas vus, mais ils sont participants à cette œuvre-là. La mission, elle inclut beaucoup de gens. Quand l'armée part au front, il y a les soldats qui vont au front, mais il y a toute l'équipe médicale en arrière qui soigne les blessés. Il y a les gens qui font l'approvisionnement. Il y a les gens qui font les stratégies. Tout ça, c'est important. Il n'y a pas de tâche ingrate. Le but commun de toutes ces choses-là, le but commun, le but d'accomplir la mission, c'est quoi la mission de la mission? C'est de glorifier Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si on peut manger pour la gloire de Dieu, on peut faire n'importe quoi pour la gloire de Dieu. Donc, le ministère envers les non-croyants, c'est quand on sort de l'Église aussi, doit toujours viser une chose, de les amener à Christ de façon concrète. On doit viser ça de façon concrète, de façon constante et de façon claire. Le but de les amener à Christ doit être clair. On ne fait pas juste quelque chose, puis « Ah, si l'occasion se présente, on verra là. » Non. Quand l'occasion se présente, il faut avoir un plan. Je ne suis pas quelqu'un, des fois ça paraît pas, mais je suis pas bon en évangélisation. J'aime parler, mais je suis pas bon. Ma femme est bonne là-dedans, elle. Vicky, elle rentre quelque part, puis tout le monde sait qu'elle est chrétienne en dedans de 15 minutes. Moi, je suis pas comme ça. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps à établir une relation avec les gens. Mais quand l'occasion se présente, si j'ai pas un plan, je parlerai pas. Je me connais. Je le sais. OK? Je le sais. Il y a des gens qui ont un don spécial pour ça. As-tu un plan? Est-ce que tu sais ce que tu vas dire quand l'occasion va se présenter? C'est important, et ça, on peut venir le chercher dans l'Église. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Mireille, lève la main, j'allais mentionner ton nom. Allez voir Mireille, allez voir un gars comme Josh Raphaël ce matin, mais je mentionne son nom. Josh, il a un don pour ça, OK? Josh, là, Greg Brown, il fait un événement les mardis. Josh, on fait du sport avec des gens qui viennent de l'Afrique du Nord. Et puis Josh est allé à son gymnase, il y avait une couple de gars là, il les a invités. Let's go, hey les gars, il leur a présenté l'Évangile. Tous les gars, ils viennent tous les mardis depuis 3 mois. C'est facile pour lui, il y a un don pour ça. Si vous voulez savoir comment faire, allez le voir. L'Église est équipée, c'est ça qu'on disait. Il y a des gens qui ont un don spécial pour ça. C'est pas une excuse pour ceux qui l'ont pas de ne pas le faire. L'Église est équipée, il y a des gens qui peuvent vous aider, puis on donne un atelier pour ça. C'est pas juste faire du bien aux gens de l'extérieur. On vise un plus grand bien. Il faut les aimer plus. Si on ne leur présente pas l'Évangile, on ne les aime pas comme Christ les aime. Christ les a aimés au point de donner sa vie. C'est ça qu'il faut leur présenter. Jésus a donné du pain et après, il est arrivé avec la vérité. Il faut présenter la vérité de l'Évangile. Peut-être disposer les cœurs et les estomacs, puis quand l'estomac est plein, des fois les oreilles sont plus ouvertes. C'est bon. Comme Madame au Cambodge. La bouche est ouverte, le bistouri dans la bouche, les oreilles sont bien disposées. On parle, c'est bon. Le ministère envers les non-croyants, on vise de les amener à Christ. Et le ministère envers les croyants, on vise à les édifier pour le service et pour le perfectionnement. Soyez zélés pour le perfectionnement et le service. Dans votre vie personnelle, pour les autres aussi, on doit vraiment travailler. Je dois vraiment travailler sur ma relation avec chacun de vous ici ce matin. Rappelez-vous la relation, ce que j'ai dit tantôt, je pense que c'est très important. Nos relations doivent être définies par 2 choses, la repentance et le pardon. C'est vraiment important. S'il y a discorde dans l'Église, il n'y a pas de rayonnement à l'extérieur. Si quelqu'un qui n'est pas croyant rentre ici le matin, puis entend les gens qui se parlent dans le dos, puis qu'il y a une chicane entre un tel puis un tel, puis ça n'a pas l'air de s'aimer tant que ça, ils ne reviendront pas. Puis après ça, on va leur parler de l'amour phénoménal de Jésus, ça ne marchera pas. Il faut que les bottines suivent les babines. Définissons nos relations par la repentance et par le pardon. Je vais terminer avec un mot de prière, puis vous avez une autre demi-heure pour vous prendre un bon café. J'étais pas sûr dans mon temps si j'arriverais, mais je suis arrivé. Donc, on va prier. Merci Seigneur pour ton Église. Merci parce que c'est toi qui l'as bâtie. C'est toi qui as défini les termes par lesquels elle doit vivre. Merci parce qu'elle n'est pas flottante. Elle a une mission. Elle a un but à accomplir. Et tu nous fais la grâce, Seigneur, de participer à ça. On n'est pas juste appelé à être dans le bateau, Seigneur, mais tu nous demandes de ramer. Et c'est une grâce, Seigneur. Je te prie qu'on puisse se tourner vers toi dans nos vies personnelles, viser la sainteté, viser d'aimer les autres autour de nous, comme toi tu nous as aimés. C'est ce que tu nous as demandé, Seigneur. Commandé avant de partir. En ton nom précieux. Amen.